Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous fêtons donc, vous l'avez compris, les 50 ans de carrière de Michel Sardou et Franck Ferrand est partie prenante. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous l'avons dit déjà, la chanson populaire est un excellent moyen de revisiter l'histoire récente. En l'occurrence, puisque certains titres de Michel Sardou ont soulevé des polémiques parfois vives, je me suis dit que l'occasion était trop belle pour ne pas évoquer, en compagnie de Martin Penet, les chanteurs engagés en général.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Pascal sur les origines de la chanson de film.
Quelque chose me dit qu'on va chanter aujourd'hui au cœur de l'histoire.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Si l'on en croit une enquête réalisée pour Le Parisien l'année dernière, 9 Français sur 10 considèrent Michel Sardou comme un monument de la chanson populaire. Et le fait est que depuis un demi-siècle, il a profondément marqué l'inconscient collectif national. Ça ne veut pas dire, loin de là, que les idées véhiculées par ses chansons fassent l'unanimité. Dans un répertoire riche en grands succès, plusieurs titres ont fait polémique, surtout dans la seconde moitié des années 70. C'est que Michel Sardou, à sa façon, est un chanteur engagé. Alors, vous savez que généralement, ce vocable désigne des artistes de gauche. Eh bien, en l'occurrence, il s'agirait plutôt d'un engagement à droite. Michel Sardou s'est montré attentif aux évolutions de la société. Or, il a choisi très tôt de ne pas cacher ce qu'il pensait. Au tout début de sa carrière, en 1965, évidemment, il était encore inconnu du public. Il a 18 ans, il a quitté les études pour travailler chez Fernand à Montmartre. Fernand, c'est Fernand Sardou, son père, à la fois acteur et chanteur à l'accent méridional, lui-même d'ailleurs fils de l'acteur Valentin Sardou. C'est le Fernand Sardou qui s'était rendu populaire en chantant notamment « Aujourd'hui peut-être », vous savez, ou alors « Demain ». C'était des chansons qui faisaient entendre les cigales, si je puis dire, aux Parisiens et aux Français. Avec son épouse Jackie, elle aussi artiste, il est donc propriétaire de ce cabaret à Montmartre. Michel a tenté une carrière de comédien, il s'est inscrit au cours d'art dramatique de Raymond Girard, il a notamment travaillé le répertoire comique, il décroche de tout petits rôles au cinéma, ce qu'on appelle des panouilles, vous savez, on le voit figurer par exemple dans Paris brûle-t-il de René Clément. Mais tout cela n'est pas suffisant pour lancer une carrière. Michel Sardou ne s'est pas encore fait un prénom. On est dans l'époque des vaches maigres, si je puis dire. Il décide de tenter sa chance dans la chanson, grâce notamment à Eddie Barclay, qui a la réputation d'être un découvreur de talent. Et le premier essai est concluant. Accompagné de Michel Fugain à la guitare, Sardou va convaincre Barclay. Un contrat est signé. Ce modèle à l'époque, ce sont Jacques Brel, Yves Montand. Sardou sort son premier 45 tours à la fin de 1965. Ça s'appelle Le Madras et d'emblée, la chanson se veut une charge. Pas bien méchante, il est vrai, mais une charge tout de même contre la jeunesse à la mode et le mouvement hippie. Portez du Madras et de cheveux longs, chante Sardou. Aimez les Beatles et même Ursula. C'est Ursula Andress, hein, bien sûr. Ayez l'air de fille étant des garçons. Dansez chez les Grecs, la valse connaît pas et vous serez dans le vent. Cela dit, malgré un premier passage à la télé, les ventes de ce 45 tours ne décollent pas. Michel prend des cours pour améliorer sa voix. Il travaille avec un compositeur, Jacques Revaux. Mais le disque suivant ne rencontre pas non plus le succès. On est en pleine époque des yéyés. Les titres anglo-saxons à l'époque dominent les hit-parades. La mode est au mouvement contestataire dans l'esprit des ballades folk de Bob Dylan, etc. Bref, tout ça, c'est pas vraiment Sardou. En 66, le grand sujet dont s'emparent les artistes, c'est l'engagement des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la guerre du Vietnam, mais vous savez qu'à l'époque, la France émet de grandes réserves. C'est la France du général de Gaulle. On sort du commandement intégré de l'OTAN. Les bases américaines situées en France sont fermées, etc. Tout ça marque Michel Sardou, qui, début 1967, propose un nouveau 45 tours qui s'appelle Les Ricains. À l'origine, les paroles avaient été écrites pour Alain Delon, mais la star a finalement décliné la proposition et voilà ce que ça donne dans la voix de Michel Sardou.
Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui.
Alors, ça ne fait pas plaisir, inutile de vous dire. La chanson n'est pas programmée à la radio. À l'époque, tout ça est encore bien tenu. Bien sûr, le pouvoir est très influent. La maison de disques Barclay renonce même à commercialiser le disque. Bref, c'est encore une tentative manquée d'un Michel Sardou qui n'est pas là où il faut être, si je puis dire. On ne l'entend pas dans Salut les copains. Il est loin des idoles des jeunes de l'époque. Plus grave, Eddie Barclay va rompre son contrat et lui lance même « Vous n'êtes pas fait pour ce métier ». Qu'à cela ne tienne, Michel Sardou crée son propre label, Tréma, et c'est désormais sous ce label qu'il sortira ses disques. Alors, dans la veine des ricains, puisqu'il montre une fois de plus son attachement aux États-Unis, pays du reste où il n'est jamais allé, il chante « America, America » et « Monsieur le Président de France » dont l'apostrophe envers le chef de l'État rappelle le fameux déserteur de Boris Vian. Dans ce titre, Sardou se met à la place du fils d'un soldat américain de la Seconde Guerre mondiale venu débarquer en Normandie en 44, mort à côté d'Avranches où une croix blanche porte son nom. Ce fils de soldat écrit au général de Gaulle pour exprimer sa colère envers ceux qui critiquent l'engagement américain au Vietnam. Les paroles ne sont pas spécialement tendres. Hein. Dites à ceux qui ont oublié, à ceux qui brûlent mon drapeau qu'en souvenir de ces années, ce sont les derniers des salauds. Mais oui, des paroles qui sont celles d'un chanteur engagé, c'est évident, mais engagé à rebours de la plupart des artistes du moment.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et c'est une journée spéciale aujourd'hui sur Europe 1 puisque nous célébrons tous ensemble les 50 ans de carrière de Michel Sardou. Alors on l'a vu, on a revécu avec vous ses débuts à Michel Sardou, chanteur engagé. Mais aussi chanteur populaire, Franck.
Et oui, de plus en plus populaire à mesure que filent les années. J'habite en France, les bals populaires, les vieux mariés, la maladie d'amour, le rire du sergent, la fille aux yeux clairs, etc. On peut dire que désormais, toutes les radios diffusent plusieurs chansons de Michel Sardou chaque jour. Il est dans les émissions de Maritier et Gilbert Carpentier, bien entendu. Il fait l'Olympia, il devient même une vedette à l'étranger. Et pour autant, on ne peut pas dire que Michel Sardou renonce à parler des sujets qui fâchent. Dans Danton, on peut lire entre les lignes une remise en cause de certains excès révolutionnaires. Le curé évoque le célibat des prêtres. Dans Les villes de solitude, il parle, vous savez, de ces espèces de villes champignons. Il y a d'ailleurs un des couplets qui dit « J'ai envie de violer les femmes ». Ça passe très mal auprès de certains, ça bien entendu. Et disons-le, les Français sont de plus en plus partagés à l'époque à propos de Sardou et de ses chansons. Certains adorent le chanteur cocardier, ils s'identifient à ses colères. Une autre partie du pays dénonce des relents chauvins et même réactionnaires. À l'été 74, l'un des paroliers importants de Sardou, Pierre Delanoë, se trouve en Californie, à Long Beach. Il découvre que le Queen Mary, le célèbre transatlantique britannique lancé en 1936, a été reconverti. Et oui, vous savez que cette merveille des mers est devenue un simple hôtel-restaurant. Or, quelques semaines plus tard, les Français apprennent de leur côté que le paquebot France va être désarmé, 12 ans seulement après sa mise en service. Pierre Delanoë, qui se souvient du Queen Mary, prend alors la plume. Il écrit « Le France », c'est cette chanson dans laquelle le paquebot est littéralement personnifié et exprime un dépit amer envers ce pays natal qui l'abandonne. Sardou est emballé par les paroles de Delanoë. Il retravaille ce texte. Ça va être le 45 tours « Le France » qui sort en novembre 1975. Il y a 40 ans, presque jour pour jour.
Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté.
C'est un énorme succès. 500 000 exemplaires s'écoulent en 15 jours, près d'1 million en 6 semaines, vous imaginez. Michel Sardou, de passage pour un concert à Saint-Nazaire, Saint-Nazaire où le paquebot a été construit, bien sûr, sur les chantiers de l'Atlantique, il est accueilli en héros par une délégation de la CGT, mais oui, avec à sa tête son secrétaire général Georges Segui. Et Georges Segui prend Sardou par le bras, et lui qui n'a pas oublié les insultes de la CGT à son égard, lui glisse à l'oreille « Tu sais que tu embrasses un nazi, camarade ?» grade. En haut lieu, on est furieux. D'ailleurs, le pouvoir va diligenter contre Sardou un contrôle fiscal. Les semaines passent. Nous sommes le vendredi 30 janvier 1976. À Pont-Sainte-Marie, dans l'Aube, un enfant de 7 ans, Philippe Bertrand, est enlevé. Vous savez, un homme demande une rançon d'1 million de francs. Donc, la police enquête. Toute la presse est littéralement sur les dents. Or, 12 jours après l'enlèvement, le ou les ravisseurs sœurs donnent signe de vie. Ils envoient une lettre d'instruction à la famille du petit garçon pour remettre l'argent. Un jeune homme de 23 ans, Patrick Henry, est arrêté puis relâché. Il accorde à ce moment-là une interview à la télé avant d'être de nouveau arrêté. Le 17 février 1976, Patrick Henry a tué Philippe Bertrand et c'est le moment que choisit Roger Gicquel, vous savez, le présentateur du journal de 20h de TF1 à l'époque, pour lancer sa célèbre phrase « La France a peur ». On réclame la tête de Patrick Henry. Le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, dit que si on le lui demandait, il voterait la mort. Et Michel Sardou, qui vient de connaître un énorme succès avec le France et qui entre-temps a fait polémique avec une autre chanson qui s'appelle « Le temps des colonies » où il parle de manière humoristique d'un colon nostalgique. Sardou décide d'écrire une chanson sur la peine de mort. Son titre « Je suis pour », la chanson sort à la rentrée 1976. «
Tu as volé mon enfant, versé le sang de mon sang. Aucun dieu ne m'apaisera, j'aurai ta peau, tu périras. »
La polémique est immédiate, évidemment. Et dans le quotidien Le Monde, on peut lire cette admonestation. Comment admettre aujourd'hui un esprit et des mots qui font appel à la vengeance immédiate et sans procès ? Chose assez nouvelle et qui trahit l'embarras de Michel Sardou à ce propos, puisqu'il va tenter de se justifier dans une interview. Il affirme être contre la peine de mort, sauf en cas de meurtre d'enfant. Il explique que son texte a été mal compris, mal interprété. Toujours est-il que la tournée qui suit se passe mal, et même très mal. Des comités anti-Sardou se sont créés ça et là. Or, ils perturbent les tours de chant. On ira jusqu'à découvrir à quelques heures d'un gala à Bruxelles en février 1977... une véritable bombe qui a été cachée dans la chaufferie de la salle de spectacle. À Toulouse, un cocktail Molotov est lancé contre le chapiteau. À Besançon, on va jusqu'à tirer sur le pare-brise du chanteur alors qu'il sortait de sa voiture. Est-ce qu'il s'agit d'une intimidation ou d'une véritable menace ? Toujours est-il que la peur s'installe dans la tournée. Bien des artistes dont les idées sont généralement opposées à celles de Michel Sardou, je pense à Yves Montand, Jean Ferrat, Maxime Le Forestier, etc., bien des artistes vont le soutenir, mais Michel Sardou choisit cette année-là d'interrompre sa tournée et du reste, il ne chantera plus « Je suis pour ».
Jusqu'à 15h sur Europe 1, nous parlons de Michel Sardou et de ses chanteurs engagés. C'est une journée spéciale, Michel Sardou, à l'occasion de ses 50 ans de carrière. C'est aujourd'hui sur Europe 1, vous pouvez réagir. Vous aimez Michel Sardou, vous voulez laisser des messages à Franck Ferrand et son invité. N'hésitez pas à la page Facebook au cœur de l'histoire ou Twitter avec le hashtag ACDH.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et à l'occasion de cette journée spéciale consacrée à Michel Sardou sur Europe 1, Franck Ferrand, vous avez décidé de revenir sur sa carrière. Michel Sardou qui s'est calmé après cette chanson « Je suis pour ».
Oui, c'est vrai. On observe un changement de ton au début des années 80, à une époque où Sardou est au sommet de sa popularité. On est dans cette France mitterrandienne. C'est après l'alternance de mai 80. Alors, il accumule les grands succès. 10 ans plus tôt, en chantant « La Java de Broadway »,« Les lacs du Connemara »,« Être une femme africaine », Adieu, etc. Les tournées sont nombreuses, on le voit sans arrêt, dans les journaux, à la télé. À la rentrée 82, Jacques Chancel lui a même consacré un grand échiquier. C'est une consécration, bien entendu. Et me direz-vous, et les titres engagés dans tout ça ? Eh bien, Michel Sardou fait moins de titres engagés. Et à propos de cette période des années 70, il dira dans une interview « J'étais trop nerveux, je disais tout d'un coup, j'écrivais mes chansons d'un jet, mes chansons étaient des coups de sang ». Et c'est vrai qu'il y avait ce côté-là, coup de sang, qui plaisait d'ailleurs incontestablement au public, en tout cas une partie du public. Un titre quand même va marquer dans ces années 80, c'est Vladimir Ilitch, le prénom de Lénine, vous savez, et qui dénonce les purges brejneviennes sur fond de goulag, qui dénonce aussi les dérives de la nomenclatura soviétique. Et puis arrive ce célèbre dimanche 24 juin 1984, la gigantesque marée humaine qui envahit littéralement les artères de la capitale, de Versailles aussi. Enfin, c'est la manifestation des défenseurs de l'école privée contre le projet de loi du ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary, instituant un service public de l'éducation nationale. C'était une promesse du candidat François Mitterrand d'ailleurs. Parmi les manifestants, il y avait des religieux évidemment, avec en tête l'archevêque Jean-Marie Lustiger, mais aussi toutes sortes de personnalités, des leaders de la droite, un grand nombre de stars, si je puis dire, et parmi elles, il y en a une qui se retrouve en photo dans Paris Match, c'est Michel Sardou, qui défilait avec son fils Romain, pourtant inscrit à l'école publique. Précisons que Sardou défile au milieu des anonymes. Le sujet va inspirer une chanson, mais cette fois, au lieu de prendre fait et cause pour un camp, Sardou aurait plutôt tendance à renvoyer dos à dos les deux modèles de scolarité. Ce seront les deux écoles.
J'ai fait les deux écoles et j'ai tout oublié. La nuit des Carmagnoles, la fin des assemblées, les dieux de l'Acropole et les saints baptisés. J'étais des deux écoles et ça n'a rien changé. Dans le Lot-et-Garonne, on bouffait du curé.
Énorme succès pendant tout l'été 1984 pour cette chanson qui est d'autant plus, comment dire, qui tombe un peu à contre-pied puisque le gouvernement socialiste entre-temps a retiré le projet de loi d'Alain Savary. Michel Sardou continue à suivre l'actualité, mais ses textes paraissent de plus en plus consensuels comme Les musulmanes ou Le privilège qui abordent l'homosexualité. Mais en 1992, sur le thème de l'éducation, il prend de nouveau une position musclée. L'idée lui est venue en lisant un éditorial du Figaro magazine dans lequel Louis Powell se reproche de n'avoir pas pris 5 minutes de son temps pour répondre à un jeune lecteur qui lui demandait « Faut-il désespérer ?». De la même façon, la chanson est un mea culpa de l'artiste qui, débordé par ses occupations, a pris du retard dans son courrier et n'a pas répondu à un admirateur ou une admiratrice. Il se trouve que dans cette chanson, un certain nombre de phrases va mettre le feu aux poudres.
Passiez un bac G, un bac à bon marché, dans un lycée poubelle, ouverture habituelle, des horizons bouchés. Votre question était, faut-il désespérer?
Passiez un bac G, un bac à bon marché, vous imaginez. On est déjà, c'est intéressant parce que là on arrive dans l'époque, les années 1990, où le politiquement correct se met en place. Pendant très longtemps, on avait encore le droit d'exprimer des opinions en France. Plus le temps passe et plus ces opinions doivent entrer, si je puis dire, en tout cas dans la forme, dans leur formulation, dans un certain nombre de rails et de canaux. Et là, la polémique est immédiate. Le secrétaire national du SNES, le principal syndicat d'enseignants, Daniel Paget, juge la chanson, je cite, « empreinte de mépris pour tous les élèves qui ont trouvé depuis des années des voies de réussite dans les lycées techniques et professionnels ». Alors Michel Sardou ne comprend même pas la polémique. Il dira dans Paris Match « Je me mets à mon piano et à mon stylo, j'écris 6 vers innocemment et il paraît que je déclenche une guerre ». Finalement, lorsqu'on voit l'évolution de tout cela et lorsqu'on étudie, lorsqu'on regarde un petit peu haut l'évolution de la carrière de Michel Sardou, le changement de ton de ses chansons et le changement de ton des réactions qu'elles sont à même de susciter, on se demande si ce qui s'est radicalisé, ce ne serait pas plutôt tout simplement la société. Alors, nous allons en parler dans un instant, nous allons revenir sur cette société du XXe siècle et sur les chansons qui l'ont accompagnée, qui ont exprimé ses rêves et ses révoltes. Nous allons parler des chanteurs engagés, de tous les chanteurs engagés. Bonjour Martin Péné.
Bonjour Franck Ferrand.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va revenir un peu en arrière, pas aussi loin qu'on l'aurait aimé parce qu'on s'est engagé en chantant depuis très longtemps en France. N'oublions pas ce que disait Beaumarchais, en France tout finit par des chansons. On pourrait dire que beaucoup de révolutions, d'émeutes, etc. ont commencé par des chansons. Je vous propose de nous en tenir au XXe siècle et je crois qu'il y a déjà beaucoup à voir et à écouter.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, nous parlons des chanteurs engagés sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand, à l'occasion des 50 ans de carrière de Michel Sardou que nous fêtons tout au long de cette journée sur Europe 1. Vous recevez Martin Péné, historien de la chanson, auteur notamment de Mémoire de la chanson, paru chez Omnibus.
Alors Martin Péné, on peut dire de Michel Sardou qu'il a tout simplement un peu épousé la vague d'une certaine manière. Il se veut l'écho de certains points de vue populaires.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, si on doit partager l'engagement dans la chanson, on va avoir des chanteurs qui se positionnent un peu plus à gauche et d'autres qui se positionnent un peu plus à droite. Alors, ceux de gauche se définissent...
Même carrément très à gauche ou carrément très à droite.
Oui, ceux de gauche se définissent comme progressistes parce que la chanson se veut souvent porteuse d'espoir, d'aspiration à plus d'égalité.
Ou de révolte, d'ailleurs.
Ou de révolte, dans certains cas. On aura des exemples à citer. Mais il y en a d'autres qui vont se positionner peut-être un peu plus comme conservateurs. Alors, ça va être Michel Sardou, Philippe Clay dans les années 70.
Oui, bien sûr. Oui.
Et donc, ça peut sembler aller dans le sens de l'opinion dominante, flatter les instincts populaires, la pensée majoritaire. Mais je dirais.
Pensée majoritaire dans le peuple, pas du tout dans les élites.
Ah, bah oui, justement.
On voit le résultat.
Je dirais qu'il y a aussi, de nos jours, un certain conformisme de gauche à dénoncer toujours la même chose, à aller dans le sens du politiquement correct que vous disiez. Et donc, certains chanteurs, eux, épousent volontiers cette direction. Et finalement, chez certains, c'est un positionnement idéologique et parfois même stratégique, à gauche pour les uns, à droite pour les autres.
Bien sûr.
Peu importe au fond ce qu'ils pensent réellement, puisque c'est l'image qui compte.
Et voilà, et c'est l'impact, comme on dit aujourd'hui, puisque ce mot est mis un peu à toutes les sauces.
Et même chez certains, c'est de la provocation.
C'est ça, oui, volontaire, ouais. Bien sûr. Il y a, à la fin du 19e siècle, on a connu plusieurs périodes de chansons engagées. On pourrait remonter aux Mazarinades et même avant ça, si on voulait. Bon, mais si on s'en tient au tournant du 20e siècle, disons, quelles sont les grandes figures de la chanson engagée entre la guerre de 70 et celle de 1914, à ce qu'on appelle la Belle Époque.
Alors à cette époque-là, il n'y avait pas tellement d'auteurs de chansons qui étaient également interprètes.
C'est qu'il faut bien distinguer à l'époque les auteurs d'un côté, les interprètes de l'autre.
Au café-concert, qui était quand même le lieu où tout le monde allait voir des chanteurs, parce qu'il n'y avait pas de disques, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas tout ça, donc il fallait aller voir les gens sur scène, ou à la rigueur acheter les partitions qu'on vendait dans les rues, chez les marchands de musique, donc voilà, c'était de la chanson vivante. Et là, la plupart des artistes qui se produisaient sur scène interprétaient des chansons écrites par des paroliers qui eux ne se produisaient pas sur scène. Et donc, parmi les figures importantes, il y avait une certaine Amiati, qui était une chanteuse de café-concert, qui avait pratiquement choisi de ne chanter que des chansons patriotiques revanchardes, donc, c'est-à-dire contre l'Allemagne qui nous avait vaincu en quelque sorte en 1870 et nous avait privé de l'Alsace et de la Lorraine.
Alors, pas des chansons qui étaient mal vues à l'époque, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire, par le pouvoir, au contraire.
Ah ben non, au contraire.
Elles allaient dans le sens de cette exaltation des vertus patriotiques de la période revanchiste entre 70
et
14, bien sûr. Alors, il y a aussi une chanson sociale à l'époque.
Oui, il y avait aussi de la chanson sociale et parmi les auteurs importants, il y avait un certain Jules Jouy qui a fait des chansons pour dénoncer l'exploitation des classes laborieuses, des chansons parfois même très belles et très dures. Et puis, alors il y a un cas un petit peu plus litigieux qui est celui d'Aristide Bruant qui a dépeint les classes populaires. Alors lui, il était auteur, compositeur et interprète. Alors il a dépeint toute la faune des barrières de Paris, les prostituées, etc. Mais alors c'est avec quand même une certaine complaisance, on peut pas vraiment dire qu'il faisait de la chanson sociale, lui. C'était plutôt un poète qui faisait dans l'argot, qui a créé un genre, la chanson réaliste. Mais de là à dire que c'est une chanson engagée...
La chanson réaliste, c'est l'entre-deux-guerres après. Hein, ça va
oui,
être
ça s'est beaucoup développé dans l'entre-deux-guerres. Mais au départ, on peut dire qu'elle était naturaliste voilà, et qu'elle a évolué vers le réalisme.
Et cette chanson réaliste, est-ce qu'elle comporte des revendications politiques
ou... Généralement pas, parce qu'en fait, c'est plutôt l'expression d'une misère personnelle ou d'un drame vécu. Et donc, c'est plutôt... on décrit ses peines, quoi. Donc, c'est pas exactement la même chose qu'un engagement politique réel. Donc.
Il y a bien sûr à l'époque des chants. Alors, vous avez d'un côté les chants des ligues, les chants de l'Action française, etc.
Absolument.
Donc, les chants, on va dire, que nous appellerions d'extrême droite. Et puis, de l'autre côté, des chants d'extrême gauche, tous les mouvements ouvriéristes, internationalistes, etc.
Oui,
pacifistes
alors,
aussi.
Oui, bien sûr, tout ça existe. Alors, il y avait par exemple, au début du XXe siècle, un chanteur qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait Monteus. Il a débuté en gros vers 1900 et donc il faisait ce qu'on appelait de la chanson sociale et d'ailleurs il se définit définissait lui-même comme ça. Et il a créé, par exemple, une chanson qui a eu beaucoup de retentissement en 1905, qui s'appelait « La grève des mères ». Et qui était une chanson en réalité antimilitariste et qui disait arrêtez de faire des enfants qui vont aller se battre après. Et donc il était, c'est, et cette chanson a été interdite.
Eh oui. Oui. Donc il y a quand même déjà une censure en quelque sorte.
Ah oui, mais il y avait une censure très importante.
Notamment pour tout ce qui concerne l'armée quand même.
Oui, alors, et une autre chanson importante de lui, c'était 1907, c'était Gloire au 17e, qui était une chanson qui glorifiait un régiment qui avait refusé de tirer sur des manifestants vignerons dans l'Hérault. À la suite d'émeutes à cause des méventes du vin. Enfin bon, je ne vais pas faire toute l'histoire, c'est un peu long, mais en tout cas, on avait envoyé l'armée et l'armée a refusé de tirer. Donc là, cette chanson glorifie cette tradition.
Ce qui est amusant, c'est de voir que dans le courant de l'entre-deux-guerres, les chansons sont de plus en plus en rapport avec l'actualité. On se moque des hommes politiques, mais d'une façon un peu détournée. Je pense à « Tout va très bien, Madame la Marquise », bien entendu, qui est la chanson sans doute la plus connue. Il y a « Tout fout le camp » également.
Alors « Tout fout le camp », c'est une chanson un peu prémonitoire qui date de 1936 et qui annonce un peu ce qui va se passer, la Seconde Guerre mondiale, et c'est une chanson très intéressante. Les paroles sont de Raymond Asseau, qui a beaucoup écrit pour Édith Piaf, et qui était un peu son mentor à l'époque, à la môme Piaf. Et cette chanson est vraiment très intéressante, parce qu'elle est prémonitoire. Donc, c'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Et on peut aussi citer quand même Gilles et Julien, qui étaient des duettistes très importants sous le Front populaire, qui ont beaucoup chanté, non seulement au Music Hall, mais aussi dans les meetings politiques.
C'est intéressant de voir la différence du statut de la chanson dans les deux guerres. Dans la Première Guerre mondiale, il s'agit d'abord et peut-être avant tout de soutenir le moral des soldats au front, ou pour certains soldats de dénoncer l'apocalypse, évidemment. Alors on a toutes ces chansons bien connues, très fortes, qui sont restées dans l'inconscient collectif d'ailleurs, et qui sont des chansons dans un cadre plus ou moins militaire. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est évidemment très différent. On est dans une guerre beaucoup plus civile, d'une certaine manière, avec des camps qui se détachent d'une manière extrêmement forte avec ceux qui vont collaborer tout à fait à un bout du spectre, ceux qui vont au contraire résister de l'autre. Et la chanson devient un véritable argument politique. J'ai eu l'occasion dans deux émissions différentes de la série L'ombre d'un doute sur France 3 de raconter d'abord le sort absolument extraordinaire de cette chanson Lili Marlène, qui aura été l'hymne des deux camps, du camp allié et avant cela du camp allemand, bien sûr, et puis le rôle des artistes et des chanteurs pendant l'occupation. Alors, si vous voulez bien, on ne va pas y revenir, parce que ce dont j'aimerais parler cet après-midi, ce sont les chanteurs vraiment engagés. Or, le chanteur engagé, il ne naît, somme toute, en tant que tel, qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Martin Penet.
Oui, on peut dire que dans les années 50, on a eu effectivement des prises de parole plus importantes, un développement du phénomène des auteurs, compositeurs, interprètes, notamment dans les cabarets rive gauche, et dont certains d'ailleurs étaient rive droite, comme le célèbre Trois Baudets dirigé par Jacques Canetti. Et c'est là que Boris Vian a fait ses débuts. Il n'était pas un très très bon interprète, hein, soyons lucides. Donc il a chanté en 1955 Le Déserteur, qu'il avait écrit lui-même, mais qui avait été créé l'année d'avant par Mouloudji. Donc c'est une chanson qui a une histoire assez compliquée.
Alors, on va y revenir sur l'histoire de la chanson dans un instant. On l'écoute dans un premier temps.
Très volontiers.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher.
Le Déserteur, cette lettre ouverte au président qui se situe en quelque sorte entre la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie.
Absolument, elle a été écrite durant la fin de la guerre d'Indochine, en février 1954, par Boris Vian, et ça lui a été inspiré par l'envoi de nouveaux contingents. Et lui a réagi à ça. Et finalement, le moment où elle a été créée sur scène par Mouloudji, ça se situe exactement le 8 mai 54, au lendemain de la chute de Dien Bien Phu. Donc c'est quand même, c'est le hasard des circonstances qui ont fait ça, parce qu'il faisait un tour de chant à ce moment-là au Théâtre de l'Œuf qui était déjà programmé, mais bon, c'est tombé pile à ce moment-là. Et puis, quelques mois plus tard, on a le début de l'insurrection en Algérie. Donc c'est...
Tombe bien d'une certaine manière, enfin à pic. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir l'importance de cette chanson dans la carrière des artistes qui vont suivre. C'est-à-dire que désormais, il faudra à un moment ou un autre de sa carrière se prononcer, en découdre en quelque sorte avec les institutions. Il y a le modèle Boris Vian à partir de 1954.
Oui. Encore qu'il y a eu quand même quelques précédents, et j'ai envie notamment de citer Yves Montand, qui a chanté en 1952 une chanson de Francis Lemarque qui s'appelle « Quand un soldat » et qui se termine en gros par « Quand un soldat revient de guerre » et il a eu de la chance et puis voilà. Donc c'est déjà une chanson très antimilitariste, donc juste un petit peu avant « Le déserteur ». Et c'est vrai que bon, Yves Montand est un interprète, il n'écrivait jamais ses chansons, mais il a incarné la conscience ouvrière après la guerre. Ça a été vraiment, pendant je dirais une quinzaine d'années, vraiment un porte-parole très important qui était très très suivi par un public populaire grâce à son répertoire, grâce à sa tenue de scène, grâce à son interprétation. Et c'est, je crois que la figure d'Yves Montand est déterminante à cette époque.
Alors, dans un instant, Jean Ferrat, Léo Ferré, Renaud et les autres.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerises et grenades aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme aubade, les lèvres s'épanouissent.
Camarade, signé Jean Ferrat, sorti en 1969. On parle des chanteurs engagés à l'occasion de cette journée spéciale Michel Sardou sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Martin Péné, historien de la chanson, auteur notamment de Mémoire de la chanson, paru chez Omnibus.
Oui, et là, je ne sais même plus si on peut parler d'engagement. En tout cas, il y a une appartenance déclarée au Parti communiste, bien entendu. Il y a toute une sphère communiste, d'ailleurs, chez les artistes de ces années 50 et surtout 60.
Les deux,
c'est ça.
N'oublions pas quand même que le PC faisait 25% des voix
à la Libération,
et pas mal d'années après encore. Mm-hmm. Hein, c'était vraiment une composante du pays très importante. Et c'est vrai que Yves Montand, comme Jean Ferrat, étaient des compagnons de route du PC, non encartés, hein, il le précisait bien. Mais j'ai presque envie de dire qu'au moment où Montand a commencé à faire de plus en plus de cinéma, c'est presque un peu Jean Ferrat qui a pris la relève de questions chansons, et il est devenu l'exemple type du chanteur engagé qui a su fédérer plusieurs générations de public de gauche et porter les espoirs d'une vie meilleure.
Nous parlons des chanteurs engagés depuis trois quarts d'heure, en commençant par Michel Sardou, mais qu'est-ce que c'est qu'un chanteur engagé finalement? Est-ce que c'est un chanteur qui, dans son tour de chant, fait un peu de meeting politique? Est-ce que le fait d'aller assister au récital de tel ou tel chanteur peut s'apparenter en quelque sorte à un engagement politique de la part du public?
J'ai envie de vous dire, Franck Ferrand, que c'est un peu un terme piégé, la chanson engagée.
Hein.
Là, vous me poussez, ben je vous réponds.
Et ben voilà, oui, c'est le but.
Parce que je pense que déjà monter sur scène, c'est une forme d'engagement, qu'il soit personnel et artistique. Et derrière l'expression chanson engagée, on peut voir aussi bien la chanson sociale, la chanson politique, contestataire, de circonstances, d'actualité. Vous voyez, ça regroupe énormément de choses.
L'engagement politique quand même, hein, évidemment. Dans le cas de Jean Ferrat, c'est une évidence. Il y a un autre personnage qui a fait de ses chansons de véritables tribunes. Alors lui, il était carrément anarchiste et il le revendiquait hautement. Et avec quelle couleur et avec quel talent? C'était évidemment Léo Ferré.
Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 50 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de scotch et un jean fils, et tout le reste, je m'en fiche. Ils ont voté, puis après, j'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En 7 ans, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul, les Français. Ils ont voté, et puis après...
Ils ont voté Léo Ferré sur Europe 1 à l'occasion de cette émission consacrée aux chanteurs engagés, Franck.
Et là, on est directement en prise avec l'actualité. C'est les élections de 1965, si je ne m'abuse.
Oui, je dirais même mieux, les élections, à mon avis, les élections législatives du printemps 67.
Ah, c'est ça, voilà.
Puisque donc, il y a suivi les élections présidentielles 2 ans plus tôt. Parce que la chanson a été écrite dans la foulée. Et donc, c'est, on peut dire que Ferré, là... en fait, s'en prend à l'immobilisme de la France gaulliste bien pensante, à son avis, et en plus, on peut dire qu'il était d'autant plus à l'aise pour critiquer la France qu'en fait, il était monégasque, oui. Léo Ferré.
C'est assez amusant parce que quand j'ai commencé tout à l'heure la carrière de Michel Sardou, donc en 1966-67, j'ai attaqué Ex Abrupto et j'ai parlé d'un certain nombre de chansons qui pouvaient passer pour engagées, mais qui, entre nous soit dit, quand on les écoute aujourd'hui, ne sont quand même pas très, très virulentes ni très choquantes, mais si on les remet dans le contexte de ce qu'on vient d'entendre là, avec Jean Ferrat, avec Léo Ferré, alors on comprend qu'il y a une vraie différence là pour le coup. Hein. Il y avait quand même dans cette chanson des années 60 un ancrage à gauche, un ancrage très à la fois anarchiste et gauchiste en vérité.
Oui, ah bah surtout chez Ferré qui lui s'est forgé une conscience d'anarchiste pure et dure. Il a d'ailleurs dédié à ses frères d'opinion 2 belles chansons, Graines d'ananas et Les Anarchistes. Et n'oublions pas qu'en 1986, il a inauguré le théâtre des Jazzers, rebaptisé Théâtre Libertaire de Paris. Vous voyez, donc c'était...
Donc là, il y a bien un engagement. Vous posiez la question tout à l'heure. Là, il y a bien un engagement, pour le coup. Hein.
Ah oui, bien sûr. Mais alors la question, c'est est-ce que la chanson peut véhiculer un message? Est-ce qu'elle peut, par l'émotion qu'elle suscite chez ses auditeurs, jouer le rôle d'une sorte de grain de sable dans la machine quotidienne? C'est ça la question.
Bon, oui.
Je pense que oui, dans certains cas, bien sûr, ça fonctionne, puisqu'il y a des chansons qui sont reprises de génération en génération et qui marquent les consciences, donc c'est évident.
Avec des mots de plus en plus forts, de moins en moins réservés, si je puis dire. L'exemple le plus criant, c'est celui des chansons, enfin de certaines des chansons de Renaud, bien entendu. Là, si vous me passez l'expression, on n'y va pas du tout avec le dos de la cuillère.
Mes chansons soient des caresses ou bien des poings dans la gueule, à qui ce soit que je m'agresse, je veux vous remuer dans vos fauteuils. Alors écoutez-moi un peu, les pouces mégots et les nez de bœufs, les ringards, les folk, les journaleux. Puis qu'il y a mon nom dans vos journaux, qu'on voit ma tronche à la télé, où je prends ma soupe empoisonnée. Vous m'avez un peu trop gonflé, je suis pas chanteur pour mes copains, et je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec Aragon que le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons et l'homme n'est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sous le zinc d'un bistrot les plus cralingues. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos.
Mais là ça y va fort, hein. Si je puis dire, ça déménage.
Oui, là ça cartonne là. Mais c'est l'époque aussi des débuts de Renaud, enfin, on est à la fin des années 70, où il cultive son image de loubard avec un usage intensif de l'argot dans ses textes, qui d'ailleurs permet de faire passer avec une pointe d'humour aussi ses critiques de, souvent assez virulentes de la société. Et à l'époque, il s'était surnommé le chanteur énervé, et puis après même le chanteur énervant. Et donc cette chanson assez personnelle, hein, qui date de 79, ben il s'en prend dedans à la police et à toutes les critiques qu'il a pu recevoir à cause justement de cette véhémence qu'il avait sur scène. Et ça lui a attiré les foudres du PC, hein, donc c'est cette chanson-là. Et finalement, ben Renaud, oui, lui s'est engagé... pour beaucoup de causes, hein, pour les droits de l'homme, l'écologie et surtout l'antimilitarisme. Ça, c'est quelque chose d'important.
Je vais tenter, Martin Penney, une synthèse historique et vous allez me dire si c'est juste, parce que là, je ne suis pas vraiment sur mes terres, on l'aura compris, je pense. On peut imaginer que pendant très longtemps, et pendant des siècles, mais même si on garde le cadre du dernier siècle, en gros, c'est ce que nous venons de faire, on peut dire que dans un premier temps, il y a des appartenances sociales, syndicales, politiques, qui déterminent un certain nombre de champs, qui a donc des registres de chants qui servent en quelque sorte de fédération, et puis petit à petit émergent des figures singulières qui se veulent revendicatives, qui vont assumer un rôle de chanteur engagé et qui en quelque sorte se détachent de ces appartenances a priori pour n'être plus, j'allais dire, engagé qu'à titre personnel. Est-ce que cette perception que j'ai vous paraît conforme à ce que vous savez ?
Grosso modo, oui.
bon, d'accord.
Le problème, c'est que si. Non, je suis à peu près d'accord avec vous. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, on a l'impression que les artistes se servent un peu de la politique et inversement. Et donc, oui. C'est vrai qu'après, ça devient presque des stratégies de carrière.
Ah oui, ça c'est terrible ce que vous nous dites. Mais quand vous dites...
Repensez à Yves Montand, qui en 1984 se voyait devenir président de la République.
Ah oui, très bien d'ailleurs, oui, il en était convaincu.
C'était quand même là une dérive.
Mais il ne chantait plus de chansons engagées depuis longtemps, Yves Montand en 84.
Il avait
mis beaucoup d'eau dans son vin.
Oui, mais c'est sûr que c'était plus le porte-parole de la classe ouvrière de 1945. Mais... N'oubliez pas qu'il a encore fait l'Olympia, sa dernière grande scène en 1981, et qu'il n'hésitait pas, là encore, à chanter certaines chansons de ses débuts. Donc,
il faut peut-être dire aussi que, le temps passant, il y a de plus en plus de chanteurs non engagés aussi, il faut le dire. Le top 50 de la fin des années 80 et des années 90 ne comporte quasiment plus de titres engagés.
On peut encore y trouver quelques-unes, comme Femmes libérées en 84.
Oui, c'est vrai.
On peut trouver même Troisième sexe d'Indochine, qui d'une certaine façon parle de la société. En fait, les chansons parlent de plus en plus de faits sociaux et peut-être un peu moins politiques.
Et un peu moins d'idées, comme aurait dit Georges Brassens.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi.
Bon, disons-le, et nous avons commencé avec Michel Sardou, donc évidemment ça distord un peu la perspective, mais les chansons de droite sont très minoritaires dans tout ce lot.
Elles sont devenues. Au fil du XXe siècle, ça a diminué progressivement au profit des chansons de gauche, mais j'ai aussi envie de dire au profit du politiquement correct. Hein, c'est ce que vous disiez au début.
Double mouvement, en quelque sorte.
Oui. Mais il y a une chose quand même que j'aimerais souligner, c'est que parfois les chansons deviennent engagées un peu en contrebande. C'est-à-dire que c'est pas forcément dans l'intention des auteurs au départ. Et je vais citer deux exemples, comme ça va bien fixer les idées. Le temps des cerises, que tout le monde connaît
bien sûr,
par cœur,
oui.
Bon, qui est devenu l'hymne des communards en 1871.
Ce qui n'était pas du tout son origine.
À l'origine, c'était une romance de café-concert. Et c'est juste parce que son auteur, Jean-Baptiste Clément, était un communard affirmé, il y a toute une histoire. Mais voilà, c'est les communards qui se la sont appropriés. Et le deuxième exemple, c'est « Non, je ne regrette rien ». Chanson d'Edith Piaf de 1960, très émouvante à titre personnel pour elle dans son parcours, et qui est devenue en quelque sorte l'hymne des parapoutchistes à Alger peu après. Donc vous savez, c'est parce que ils se la sont appropriée, ils en ont fait autre chose. Et ça aussi, c'est que la chanson, c'est pas juste quelqu'un qui chante ou quelqu'un qui écrit une chanson, c'est aussi un public qui la reçoit et qui en fait ce qu'il veut. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important à souligner.
Merci beaucoup Martin Penney. Je rappelle que non seulement vous êtes la mémoire de la chanson, mais vous avez écrit « Mémoire de la chanson » chez Omnibus. C'est une fois de plus, à chaque fois que vous venez, on le dit, c'est un sujet qui nous entraînerait très loin et qui pourrait durer encore des heures. Allez, pour les fans de Michel Sardou, on se quitte sur quelques accents du temps des colonies.
Pour moi, monsieur, rien n'égalait, les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, autant béni des colonies. Autrefois à Colombécha, j'avais plein de serviteurs noirs et quatre filles dans mon lit.
Autant béni des colonies, on pense encore à toi, au Guana.
Michel Sardou, et d'ailleurs il y a un très beau livre qui vient de paraître chez Fayard, c'est un album préfacé par Michel Sardou lui-même qui s'appelle « Sardou, 50 années ensemble ». Vous avouerez que cette circonstance, l'auteur c'est Bertrand Tessier.
Et nous allons continuer à parler chansons avec une question de Pascal sur Europe1.fr. C'est dans un instant dans Cœur de l'Histoire sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, c'est une question qui nous vient de Pascal sur le site internet europe1.fr. Il vous demande quelle a été la première chanson de film.
Alors voilà une question claire qui appelle une réponse courte. La toute première musique de film, elle a été composée par Camille Saint-Saëns pour accompagner le film L'assassinat du duc de Guise d'André Calmette en 1908. Mais il a fallu attendre l'apparition en 1926-27 du procédé Vitaphone pour qu'on entende parler et même en l'occurrence chanter les comédiens. Et la toute première chanson de film, eh bien c'est celle du chanteur de jazz. C'est donc en 1926. 1927. La musique, ce premier film est signé Alan Crosland avec la voix du chanteur Al Johnson. C'est donc la première chanson de film.